Voilà. Alors on a vu ces quatre façons d'envisager l'amour comme un mouvement. Et vous voyez, on est quand même assez loin, enfin il y a un ordre des choses, on est assez loin de l'homme défini un petit peu dans la vision freudienne comme un sac de pulsions, hein, comme une, avec les tendances, les pulsions sexuelles qui est la libido, et la pulsion du moi qui est l'intérêt, et où l'enfant serait défini comme un pervers narcissique. Voilà, on se rend compte qu'il y a un ordre dans le cœur de l'être humain, qu'on peut bien constater parfois ces choses-là, et Freud a vu que c'est vrai qu'on a des gens qui expriment de manière un peu impulsive les pulsions de la libido, les pulsions de l'intérêt, les pulsions du moi, ou plus tard, dans la deuxième phase de Freud, ce sera Eros et Thanatos, la pulsion de l'Eros et la pulsion de la mort. C'est beaucoup plus profond que ça, voyez-vous. C'est beaucoup plus profond. Il y a un ordre qui est là. L'homme est désordonné par le péché, c'est sûr, mais il est quand même ordonné à quelque chose. Et tout le travail de la construction de la personnalité, de la construction du couple, de la construction de l'amour, va être d'aller chercher à l'origine, c'est-à-dire à la fois dans le plan de Dieu et à la fois dans le plus profond de son cœur, ces grands mouvements qui me font être et qui me conduisent au bonheur. L'homme est naturellement incliné à la vérité, à l'amour, au bien, à la vie, à la conjugalité. Et ces grands mouvements qui habitent le cœur de l'homme sont absolument irrépressibles. On peut essayer de lutter contre, on peut essayer de se battre là contre, mais ça restera profondément marqué dans le cœur de l'homme. C'est les inclinations de notre nature, cette inclination au bien, au vrai, à la vie, à la conjugalité et à la vie en société. Ces cinq grands mouvements, ces grandes inclinations de l'être humain, elles sont là. Et même celui qui se bat contre un autre ne peut pas être appelé à la vie en société. C'est parce qu'il y a une société qui peut se battre contre elle. Et même la conjugalité, voyez-vous, le célibat consacré prend un sens en raison même de la sponsalité du corps, du caractère sponsal, donc d'épouse ou époux du corps. Toute dimension humaine appartient à cette sponsalité. C'est pas possible. S'il n'y a pas eu ça, il y a un déni d'humanité derrière, et ce déni d'humanité explose un jour ou l'autre. Il ressort de manière anarchique, et c'est pas facile. Alors c'est vrai que c'est pas facile. Je vous montrerai à la fin un petit sketch aussi pour conclure les choses. Alors comment les choses? J'aimerais revenir un petit peu à ces fameuses catéchèses de Jean-Paul II sur le corps humain. C'est une véritable merveille à partir de laquelle je vais comprendre quelque chose de ma vocation la plus profonde. Le corps qui est appelé, qui sera le lieu du don. Une des expressions du don va être aussi le sourire. Vous savez qu'il faut 17 muscles pour sourire et 43 pour tirer la gueule. Donc si vous êtes flemmard, souriez, c'est plus facile. Mais c'est pas qu'une question de musculation, vous l'avez bien compris. C'est une dynamique de l'être. Et que parfois, le sourire est plus difficile parce qu'il y a quelque chose de plus profond. Alors, j'aimerais revenir un petit peu à ce texte de la Genèse, à la façon avec laquelle Dieu a créé l'être humain, l'homme et la femme. Vous savez qu'il y a deux récits dans le texte de la Genèse. Jean-Paul II analyse un petit peu ces textes de la Genèse sur la façon dont les choses se sont passées. Alors, bien sûr, vous savez que c'est un langage imagé qui est donné, mais il y a quelque chose de profond qui nous est dit, et ça donnait à une réflexion sur la théologie du corps, puisque c'est à partir du corps que les choses vont se faire. Dans le premier récit, Dieu créa l'homme, il les créa homme et femme, il créa Adama, le glaiseux, le terreux, celui qui est tiré de la glaise, et il les créa mâle et femelle, c'est les mots qui sont utilisés en hébreu, mais avec un sens tout à fait particulier. En créant l'homme et la femme comme ça, il créa l'homme capable de se souvenir, le masculin capable de se souvenir, c'est le mot qui est utilisé en hébreu, capable de faire mémoire des choses, et la femme capable de recevoir la vie. C'est le mot qui est utilisé. Donc ça, c'est le premier récit de la Genèse. L'autre, il créa l'être humain et il endormit. Alors, à partir de ce texte-là, restons ce texte-là, c'est intéressant parce qu'il y a cet étonnement à un moment donné où il est dit « il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Et...